Radio Okapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Okapi, la radio de la paix, pour votre journal de ce dimanche. L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est tout de suite. Ebola en Ituri, la prise en charge devient totale. À Nyankunde, Rwampara et Bunia, tous les malades désormais soignés sans frais pour casser la chaîne de contamination et relancer l'espoir. Référendum, la société civile dit stop et met la pression. Pas question de révision constitutionnelle, suspension de la loi référendaire exigée, priorité absolue à la paix, à la cohésion nationale et à la reconquête du territoire. Longimev, le pari numérique pour sauver les stocks de médicaments, une innovation qui vise à renforcer la disponibilité de produits de santé et améliorer la chaîne d'approvisionnement. Notre invité, Jefté Kalonji, chef de projet au sein de l'organisation Village Reach. Décryptage en fin de journal. Bonne nouvelle, au cœur de l'Ituri, l'espoir régné pour les malades d'Ebola. Internés au centre hospitalier de Nyankunde, à 48 km au sud de Bunia, dans les territoires d'Irumu, ils bénéficieront désormais d'une prise en charge totale. L'annonce est du ministre de la Santé publique, Roger Nkamba. Objectif, casser la chaîne de contamination dans cette zone de santé durement touchée. Le ministre l'a déclaré samedi à Bunia, au terme d'une mission de 72 heures dans le chef lieu de la province épicentre de l'épidémie. Et la mesure ne s'arrête pas là, elle s'étend également aux malades accueillis dans les centres de traitement et d'isolement des Rwampara et des Bunia. De quoi redonner souffle et espoir aux patients comme aux équipes médicales. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Le centre hospitalier de Nyankunde héberge plus d'une dizaine de malades suspects et confirmés d'Ebola. Comme dans les autres centres de traitement et d'isolement de la maladie, ces malades sans assistance médicale adéquate partagent le même mélatride avec d'autres patients. Par ailleurs, et selon des sources internes à cette structure sanitaire, certains malades manquent à manger et sont obligés d'aller chercher de la nourriture dans la communauté, ce qui constitue un grand risque pour la propagation du virus. Informé de cette situation, le ministre de la Santé publique, Roger Nkamba, a annoncé la prise en charge médicale et holistique de tous les malades en isolement au centre hospitalier de Nyankunde, ainsi que dans d'autres structures, notamment dans les hôpitaux généraux de référence de Rwampara et de Bunia. Il ajoute, je cite, « Nous vous rassurons que le gouvernement a tout mis en place pour stopper la propagation de ces virus qui a déjà causé des centaines de morts. Cela est possible avec un accompagnement des communautés locales. » Local. Fin de citation. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours sur le front d'Ebola en Ituri, la riposte monte en puissance dans la province. Tests, équipements de protection, médicaments essentiels, tout est désormais disponible en quantité suffisante, selon le ministre de la Santé, Samuel Roger Nkamba. Autre avancée majeure, les tests seront désormais réalisés sur place à Bunia. Une décision qui va accélérer la prise en charge des patients et surtout éviter l'accumulation des échantillons en attente d'analyse. Un gain de temps précieux dans la lutte contre l'épidémie. On écoute le ministre de la Santé, Samuel Roger Nkamba, au micro de Jean-Claude Lokidile.
Nous avons énormément de malades qui ont les symptômes des maladies les plus ordinaires. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons disponibiliser les tests de telle sorte que dans le maximum de centres de santé, qu'on puisse prélever et envoyer pour que nous puissions, en moins de 24 heures, séparer les personnes qui sont suspectes de la maladie des personnes qui ne sont pas du tout suspectes de maladie. Mais nous avons reçu aussi encore dizaines et dizaines de tonnes d'équipements, notamment tout ce qui est équipement de protection. Nous avons reçu aussi les médicaments de première nécessité et nous sommes déjà en train de distribuer tout cela.
Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins actuels en testing. Et donc, nous pouvons dire que autour de 900 échantillons que nous avons testés, nous avons maintenant la certitude du nombre des échantillons positifs. Nous sommes autour de 260 échantillons positifs. Donc nous avons honnêtement maintenant suffisamment de doses pour tester tous les nouveaux cas qui pourraient se présenter parce que nous n'avons plus un seul échantillon en retard depuis cette nuit.
D'après le ministre, disposer du diagnostic sur place change la donne dans la lutte contre l'épidémie en Ituri. Dans la lutte toujours contre Ebola en Ituri, la RDC s'appuie sur des partenaires clés. L'OMS, l'UNICEF et la MONUSCO jouent un rôle clé dans la logistique, l'acheminement du personnel et des intrants médicaux nécessaires à la prise en charge des malades. Un effort conjoint salué par le gouvernement congolais. On retrouve Jean-Claude Lokidile pour les détails.
Le ministre de la Santé en visite ce jeudi à Bunia a notamment souligné la qualité de la collaboration dans le partage des informations relatives à l'évolution de l'épidémie. Samuel Roger Kamba.
C'est une très bonne relation. En tout cas, nous, la RDC, nous sommes très transparents. Quand on me dit on vous met autant d'argent, je l'annonce toujours. Quand on me dit on vous apporte tel équipement, je l'annonce toujours. Nous devons recadrer le message. C'est nous qui donnons à tous les partenaires les chiffres. Ce que nous demandons, c'est que on dise aux gens la réalité de la situation, mais qu'on ne spécule pas.
De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri a salué l'appui logistique et opérationnel apporté par la MONUSCO dans un contexte où certaines zones touchées demeurent difficiles d'accès. Le général Johnny Luboyan Kachama.
La MONUSCO nous aide dans le transport et la sécurisation aussi. Donc nous travaillons avec eux, avec la police de la MONUSCO, et nous travaillons aussi avec le service de logistique parce qu'ils nous amènent et le personnel et le matériel. Ils peuvent transporter pour nous.
Pour les autorités congolaises, la lutte contre Ebola demeure un défi collectif qui exige à la fois l'engagement des communautés et le soutien constant des partenaires mobilisés aux côtés du gouvernement. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Autre temps fort de l'actualité dans la capitale, la société civile hausse le ton et appelle à suspendre l'examen de la loi référendaire à l'Assemblée nationale. Annonce faite ce samedi à Kinshasa au terme d'une journée de concertation. Pour ces organisations, pas de détour pour préserver la paix, la démocratie et la cohésion nationale. Référendum et révision constitutionnelle doivent être abandonnés. Priorité, selon elle, concentrer toutes les énergies sur la libération totale du territoire. Écoutons Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des organisations de la société civile, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
La RDC traverse une période critique de son histoire. Les priorités nationales doivent être la restauration de la sécurité, la défense de l'intégrité territoriale, l'assistance aux populations affectées par la guerre et le renforcement de l'unité nationale. Le vote de la loi référendaire dans un contexte national extrêmement sensible redouble notre inquiétude. Les élus du peuple doivent se rappeler leurs responsabilités historiques dans la préservation de la paix, l'unité nationale et la démocratie. L'histoire retiendra les décisions prises dans ces moments critiques où la nation est menacée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toute tentative de changement de la Constitution n'est ni opportune ni prioritaire dans le contexte actuel des guerres d'occupation d'une partie du territoire national et des fragilités institutionnelles de notre pays. Le processus de vote de la loi référendaire par l'Assemblée nationale dans un contexte national extrêmement sensible mérite de être suspendu.
Sur la scène internationale à présent, le ministre congolais de droits humains interpelle et appelle à mettre fin aux violations de droits de l'homme dans l'est de la RDC. Face au Sénat français, jeudi 28 mai, lors d'un exposé sur le thème « Amplifier les voix », Samuel Mbemba n'a pas mâché ses mots. Il a pointé du doigt les troupes rwandaises et leurs alliés de l'AFC M23 qu'il accuse d'être à l'origine de ces exactions. Le ministre a également dénoncé l'usage du viol comme arme de guerre dans cette partie du pays. Un extrait de son intervention proposé par Blaise Ndongala Mayanda.
Amplifier les voix de ces femmes contre les violences sexuelles et l'impunité. Tous les rapports des Nations Unies indiquent la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Notre plaidoyer dans ce cadre va consister à demander aux sénateurs français, au groupe d'amitié France-Afrique centrale du Sénat, d'être ce groupe qui amplifie les cris de ces femmes meurtries, parler encore plus fort. Plus fort pour que tout le Parlement français entende. Plus fort pour que la France entière et l'Union européenne entendent ce que disent ces femmes meurtries.
Justement, à l'est de la RDC, l'insécurité persiste. Au Nord Kivu, un prêtre et un couple de nouveaux mariés ont été kidnappés samedi dans le parc des Virunga à l'approche des Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Un acte vivement déploré par l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, qui assure que tout est mis en œuvre pour obtenir leur libération dans le plus bref délai. Plus d'explications avec Rosalie Zawadi.
On en sait un peu plus sur les circonstances du kidnapping de ce samedi dans les parcs nationaux des Virunga. D'après leurs proches, les deux prêtres revenaient des Kanyabayunga où ils étaient partis célébrer le mariage du frère de l'un d'eux. Après le mariage, le nouveau couple devait rentrer vivre à Goma et tous ont pris place à bord du même véhicule que les prêtres. C'est sur la route menant vers Goma, alors qu'ils traversaient les parcs des Virunga, que des hommes armés ont surgi et intercepté leur véhicule. Les assaillants ont alors amené tout le monde dans les profondeurs du parc. Mais la marche dans les parcs a été pénible. L'un des prêtres, épuisé, n'arrivait plus à suivre le rythme. Les ravisseurs l'ont alors violemment tabassé avant de l'abandonner et de s'enfoncer loin dans la forêt avec les autres otages. Ce prêtre a réussi à rejoindre la route principale où il a enfin été secouru. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, condamne cet incident et demande que les prêtres restés aux mains de ces hommes armés ainsi que les autres personnes soient relâchées sains et saufs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Toujours sur le front sécuritaire, le Nord Kivu reste sous tension. À Beni, au moins 6 civils ont été tués et plusieurs autres sont portés disparus après une nouvelle attaque attribuée aux ADF. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à ce dimanche à Ngambi, un quartier périphérique de la commune de Rwenzori, environ 7 km du centre-ville de Beni. Pourtant, proche des positions des FARDC, la zone s'est réveillée dans la douleur et la consternation. Ce dimanche matin encore, les habitants poursuivaient leur recherche de personnes introuvables. Les détails avec Martial Papimoukeba.
L'attaque d'Ngadi attribuée aux rebelles des ADF est survenue la nuit dernière aux environs de 21h30 heure locale. Selon des sources locales, les assaillants ont d'abord pris pour cible un campement des membres de la communauté pygmée. Au moins 6 civils ont été tués à l'arme blanche, indiquent ces sources qui précisent que les corps des victimes ont été retrouvés sur place. Les assaillants auraient ensuite poursuivi leur incursion dans d'autres secteurs du quartier Ngadi. Plusieurs personnes restent également introuvables, mais leur nombre exact des mères inconnues à ce stade, ajoutent les mêmes sources. Dans un communiqué publié ce dimanche matin, l'organisation Programme d'assistance aux Pygmées condamne cette attaque et confirme un bilan des 6 membres de la communauté tués, parmi lesquels figure un comédien bien connu dans la ville de Beni. Jusqu'à présent, ni les autorités locales, ni les FARDC ne se sont officiellement exprimés sur cette attaque. Il s'agit de la première attaque attribuée aux ADF visant la ville de Beni depuis plus de 3 ans. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Direction le Kasaï central, où les agriculteurs peinent à tirer leur épingle du jeu. Manque d'outils, insuffisance d'intrants agricoles, moyens financiers très limités. Les producteurs font face à des sérieux obstacles qui freinent leur production et leurs revenus. Pour inverser la tendance, le Programme national de développement agricole lance un mécanisme de subvention, les matching grants, destinés à soutenir les petits exploitants et leurs organisations. Objectif, relancer la production et améliorer les conditions de vie des ménages. Le point avec André Katindengala Moulumé.
Dans la commune de Nganza, Anakle Kapajika, président de l'organisation paysanne Kashipa Malanda, déplore le manque d'outils et d'intrants agricoles. Selon lui, ces difficultés limitent considérablement la production de ses membres. De son côté, Ntumbaka Lulambi, cultivatrice également basée en Nganza, affirme disposer de vastes terres cultivables, mais manque des ressources financières et de main-d'œuvre pour les exploiter pleinement. Nous sommes déjà âgés. Si j'avais les moyens financiers, je pourrais faire appel aux jeunes pour m'aider. Nous avons des concessions. Nous sollicitons du gouvernement un appui en tracteur afin de faciliter les travaux agricoles. Face à ces défis, le Programme national de développement agricole a mis en place les subventions destinées aux petits producteurs, aux coopératives ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises agricoles. Selon Jean Samaba, expert au sein du programme, une enveloppe de 6 millions de dollars est mobilisée pour soutenir l'augmentation de la production et des revenus des bénéficiaires. Les producteurs individuels peuvent obtenir jusqu'à 10 000 dollars avec une contribution personnelle de 10%, tandis que les coopératives peuvent bénéficier d'un financement allant jusqu'à 50 000 dollars avec un apport de 30%. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa où la circulation devient un danger au quotidien. Traverser les grandes artères de la capitale se transforme en véritable parcours du combattant pour les piétons. Sur les boulevards et axes à forte circulation, le non-respect du code de la route pour certains chauffeurs, motards et conducteurs des bus met chaque jour des vies en danger. Face à cette situation, la population tire la sonnette d'alarme. Reportage de Magloire Landou Mayemba.
Sur les grandes artères de Kinshasa, le piéton éprouve d'énormes difficultés pour traverser la chaussée. En cause, le comportement de certains chauffeurs, motards et conducteurs de bus qui ne respectent ni les passages ni les priorités accordées aux passants. Plusieurs habitants rencontrés dénoncent une circulation désordonnée.
Traverser le boulevard est vraiment difficile parce que certains véhicules et motos surgissent brusquement dans notre sens pendant que vous regardez déjà de l'autre côté. Cela énerve et met sérieusement la vie des citoyens en danger. Les autorités doivent examiner cette situation de près.
Quand je traverse, les motards venant en sens inverse passent souvent sur une voie qui n'est pas la leur sans respecter la priorité. Je suis donc obligée d'attendre longtemps avant de traverser, ce qui est dangereux, surtout pour les personnes âgées.
Un motard interrogé reconnaît également les manques des disciplines observées sur les routes de la capitale.
Généralement, les motards sont pressés. Rouler quand il y a de l'embouteillage, ça pose vraiment problème. À des fois, c'est suite à cela qu'on préfère prendre l'essence contraire pour aller un peu plus vite.
Face à cette situation, la population demande l'implication des autorités afin de renforcer le contrôle routier et assurer un suivi strict pour protéger le piéton régulièrement exposé au danger.
Actualité internationale.
Soudan du Sud, plus de la moitié de la population est aujourd'hui confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Selon l'ONU, plus de 56% de 13 millions d'habitants du pays sont touchés. La menace de famine plane désormais sur plusieurs régions, conséquence directe de la reprise des combats et de l'effondrement de l'accord de paix signé en 2018. Malgré une reprise partielle des opérations humanitaires, grâce à un accès élargi dans certaines zones, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Il lui manque 266 millions de dollars pour éviter une catastrophe majeure. Aujourd'hui, près de 7,8 millions de Sud-Soudanais ont besoin d'aide, mais seuls 4,2 millions peuvent être pris en charge faute de moyens suffisants. Et la situation se complique encore. La flambée des coûts du carburant, liée notamment aux tensions internationales, alourdit les dépenses du PAM de 3,2 millions de dollars supplémentaires chaque mois.
L'invité.
Innovation dans le secteur de la santé en RDC, le pays franchit un cap avec le lancement du logiciel Logimev dédié à la gestion numérique des produits de santé. Objectif, mettre fin aux ruptures des stocks et limiter les gaspillages liés à la péremption. Invité de Radio Okapi, Jefté Kalongi, chef de projet à Village Rich, explique que ces systèmes automatisent et centralisent les commandes pour une meilleure coordination entre structures de santé, distributeurs et autorités. Il est interrogé par Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Jefté Kalongi.
Bonjour.
Le secrétaire général à la santé vient de lancer les logiciels Logimev. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette plateforme?
Logimev est un système de gestion d'informations logistiques des produits de santé et transactionnel. Transactionnel, ça signifie qu'il vous donne des informations en temps réel. Tous les mouvements des stocks qui sont faits dans les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé sont captés par les systèmes et présentés à travers les tableaux des bords et aussi des rapports de manière à ce qu'à tout moment on a une visibilité en temps réel des données logistiques pour que les décideurs qui gèrent la chaîne d'approvisionnement des produits de santé puissent prendre des décisions qui sont nécessaires pour garantir la disponibilité des produits de santé partout où on en a besoin dans le pays.
Quel est l'impact de cet outil digital?
L'impact est que ça va améliorer beaucoup de choses. J'ai parlé de la notion de la transactionnalité. C'est vrai que jusque-là, les pays utilisent déjà des systèmes numériques pour suivre la gestion des produits de santé, mais la notion de la transactionnalité n'existait pas encore. Lorsqu'on parle de la transactionnalité, c'est par exemple, moi, je gère un dépôt A et l'autre gère un dépôt B. J'enlève les stocks pour envoyer dans les dépôts B. Il faut que automatiquement, les systèmes reflètent ce qui vient de se passer. Il ne faudra pas attendre à la fin du mois pour avoir les rapports. Et c'est cette notion de la transactionnalité que ces systèmes apportent. Et c'est ce qui fera qu'en temps réel, les décideurs au niveau des différents programmes du ministère de la Santé pourront voir qu'est-ce qui se passe au niveau des stocks des produits de santé en termes de la chaîne d'approvisionnement qui existe dans le pays.
Comment se fera la mise en œuvre de ces projets sur terrain?
L'initiative elle-même appartient au ministère de la Santé à travers son secrétariat général, appuyé par ses bailleurs traditionnels tels que Gavi. Nous avons eu à intervenir pour pouvoir déjà implémenter les systèmes. Le système est implémenté avec tout ce qu'il faut pour que ça soit utilisé partout. Mais seulement, pour utiliser ça partout, ça demande de faire des formations, ça demande de prendre en compte aussi certains aspects liés à la connectivité. Et tout ça, c'est tout un programme qui est géré au niveau du secrétariat général qui a le leadership sur ces projets, aussi avec les bailleurs qui financent ces projets. Et nous, en tant que chef de projet, nous sommes là justement pour accompagner techniquement pour que cela puisse se faire tel que nous l'avons planifié.
Pourquoi avoir choisi seulement la province de Kinshasa et celle du Maniema au cours de cette phase pilote?
C'est à Kinshasa, nous avons pratiquement toutes les conditions réunies en termes de connectivité, en termes d'accessibilité. C'est plutôt une province facile à pouvoir expérimenter les systèmes. Au Maniema, on a des difficultés de connectivité et même certains coins aussi, l'accessibilité est un peu difficile. Donc, les points qui a amené à faire ce choix, c'est de pouvoir finalement avoir deux modèles. Une province où les choses sont plutôt faciles, une autre province où plutôt les choses sont un peu difficiles. Kinshasa, c'est l'ouest et Maniema, c'est l'est. C'est une façon aussi de voir montrer qu'on travaille pour les pays, on n'est pas seulement dans un coin.
Vous estimez à combien les coûts de ces projets?
Donc, en termes de coûts, c'est vraiment une affaire qui est liée au pays et aussi à UNICEF et même Gavi qui financent ces projets.
Quels sont les différents partenaires impliqués dans la réalisation de ces projets?
Nous travaillons en tant que village riche. Nous avons été sélectionnés à travers un processus normal d'appel d'offres et nous travaillons en collaboration avec CHAI, qui est aussi une organisation internationale impliquée dans les renforcements des systèmes des chaînes d'approvisionnement à des produits de santé. Nous avons aussi une structure locale avec laquelle nous travaillons, une start-up qui s'appelle DAOTECH. Le but final est que nous puissions non seulement accompagner les pays à avoir ces systèmes dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, mais aussi veiller à ce que nous ayons une structure qui pourra aider dans l'appropriation nationale et aussi dans la pérennisation.
Monsieur Jefté Kalongi, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Jefté Kalongi, chef de projet à Village Reach, invité de Radio Capi, il nous parlait du logiciel Logimev, un outil numérique destiné à améliorer la gestion des produits de santé en RDC. Fin de ce journal de 18h sur Radio Capi. Merci d'être resté avec nous. Cette édition est à réécouter en podcast sur radiocapi.net et l'actualité en continu sur nos plateformes digitales. Gisèle Cage à la présentation, mise en onde Pierre Diassi. Coordination éditoriale Jude Mister Bilanda. Restez branchés, on se retrouve très vite sur la même fréquence. Très bonne soirée à toutes et à tous.